Radio PFM, toujours en direct du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, donc ce 1er mai à Arras, et pour un débat dont le thème s'intitule de la manière suivante, écrire à côté de la révolution au Maghreb, entre commémoration et révolution, mémoire et engagement, quelle est la place de l'écrivain ? Deux invités pour ce débat, Kadour Riad, bonjour.
Bonjour.
Alors Kadour, vous êtes algérien, vous êtes en France depuis 1991.
Toujours algérien, oui. Mais j'ai pas demandé la nationalité.
Vous êtes réfugié territorial, je crois que c'est le...
qui me l'offre, que les autorités me convoquent pour m'offrir la nationalité française.
Alors vous êtes né à Cherchel, en Algérie, en 1952. Je cite votre ville natale parce que dans votre livre, Putain d'indépendance, c'est important.
C'est un personnage, ouais. La ville aussi... C'est un personnage du livre.
Et vous êtes né en 1952. Là aussi, la date est importante parce que en 1962, donc vous aviez 10 ans, date de du début de l'indépendance.
J'avais 10 ans. Ouais.
Alors vous avez produit, vous êtes un confrère en quelque sorte radio, puisque vous avez produit une émission à Radio Alger, je crois.
Alger Chaîne 3.
Voilà. C'est une radio qui s'appelait Sans Pitié.
Oui,
Sans Pitié. Et une émission qui avait un grand écho et qui est née après les émeutes.
Oui, après les émeutes du 5 octobre 88.
Ouais. Et vous venez de publier un livre qui s'intitule « Putain d'indépendance » aux éditions La Contre-Allée. Alors bon, un titre, déjà un mot sur ce titre, un titre qui résonne et qui prend à contre-pied un peu la commémoration de l'indépendance, le cinquantenaire.
Enfin, pas la commémoration, parce que d'abord ce livre était prêt depuis bien avant. Donc il est sorti comme ça, accidentellement, à ce moment-là. Mais c'est un peu pour régler, pour disons désacraliser cette indépendance, cette putain d'indépendance. Oui, je le revendique, je l'assume. Donc, parce qu'on a tendance à sacraliser cette indépendance. Le pouvoir a tendance à sacraliser cette indépendance comme si c'était tout pour les Algériens. Or, l'indépendance est une déception pour les Algériens, enfin pour moi.
Alors, on reviendra sur votre livre dans un moment. Deuxième invité, Abdelhaye Sadik. Vous êtes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes marocain, vous enseignez à l'Université de Lettres de Marrakech, c'est bien ça ?
Tout à fait, oui.
Et vous avez écrit, vous vivez toujours au Maroc, donc.
Oui, heureusement. Non, il y a une grande partie de ma vie que j'ai passée en France. Et à un moment, lorsque j'avais terminé mes études, je me suis posé la question à quoi allais-je servir, sinon à aller travailler au Maroc, et donc perpétuer une tradition et défendre la langue française et tout ce qui est autour.
D'accord. Est-ce que vous dites, vous, putain d'indépendance ?
Pourquoi putain ? Non. Je crois que l'indépendance... nous étions un protectorat. C'est très, très différent par rapport à l'Algérie. Ce qui veut dire que lorsque nous avons eu notre indépendance, nous avons œuvré de pair avec la France, dans une certaine manière, pour faire au mieux à ce que les relations restent cordiales. Elles sont conflictuelles, mais elles sont cordiales.
D'accord. Alors, vous avez écrit un livre, c'est de ce livre-là qu'on va parler, qui est consacré à l'histoire d'un groupe de musique marocain, Nassel Riwan.
Oui.
Un groupe qui est né en 1970, si je me trompe.
1970, dans la mouvance un petit peu de ce qu'on pourrait appeler le mouvement protestataire, tant en Europe, en Orient qu'aux États-Unis. Et ayant vécu énormément en France, ce groupe-là représentait quand même la voix phare de la protestation marocaine, mais pas uniquement marocaine, maghrébine et arabe. Et lorsqu'ils se présentaient sur scène en France, partout en France ou en Belgique, mes camarades ou mes amis français se posaient toujours la question que racontait ce groupe-là. S'il y avait un emportement avec la musique qui était basée essentiellement sur la trance et sur une musicalité du terroir afro-arabe, on se demandait que voulait dire ce groupe-là. Alors j'ai eu ce désir et ce défi d'emprunter la langue de Molière, la mettre dans la bouche de mes concitoyens Nassel Riwan pour essayer d'amoindrir cette frontière à la fois linguistique et musicale entre les deux peuples.
D'accord. Voilà. Alors, Nacelle Riwan, qui a été qualifié par Scorsese de Rolling Stones, de l'Afrique.
Ah oui, les Stones du Maghreb, de l'Afrique. Il est vrai que dans La Dernière Tentation du Christ, il a emprunté un morceau emblématique de ce groupe-là. Et ça a fait un petit peu, ça a grandi la renommée de ce groupe, au-delà des frontières, surtout anglo-saxonnes. Et ça a été un bien pour, je crois, pour tout le monde. Voilà.
Alors, on reviendra sur votre, sur votre livre. Voilà comment ça va se passer un petit peu, là. Mais bon, on peut brouiller les cartes aussi en cours de route. On va examiner, on va discuter un peu successivement sur chacun de vos ouvrages. Et puis ensuite, on réfléchira un peu sur la question de la place de l'écrivain dans confronté à des événements politiques. Bon, là, il est question de révolution du Maghreb. Vous direz un peu ce que vous pensez des processus en cours. Alors, on commence par exemple par... Putain d'indépendance, Kadour Riyad. Alors, donc on disait, et vous le disiez, Cherchel, votre ville natale, est un personnage du roman. C'est votre premier roman, écrit à l'âge de 60 ans.
Oui, c'est mon premier. Oui, c'est mon premier roman.
Alors, Cherchel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de,
ben,
de
Cherchel,
cette ville?
Cherchel, c'était la capitale de l'Algérie romaine. Donc, c'est une ville... une ville prestigieuse, quoi, avec un passé historique et un petit port de pêche. Il y a un théâtre romain et des thermes, et un musée. Et donc, c'est un putain d'indépendance, c'est aussi une déclaration d'amour à ma ville que j'adorais quand j'étais enfant, quoi.
Ah, vous nous faites partager ce sentiment d'amour de cette ville. On a envie de la découvrir.
Et que progressivement, avec l'indépendance, c'est une ville qui était très belle, magnifique et tout, qui, en fait, du moins, je la voyais comme ça dans mon enfance, et que je voyais se dégrader d'une manière qui est devenue presque un bidonville, quoi, par rapport à ce qu'elle fut. Voilà, d'où ma colère, putain d'indépendance, voilà. On marche sur les trottoirs, sur des ordures, il n'y a pratiquement plus de plages, je ne sais pas comment on a fait, mais on a exterminé les plages, le port est occupé, enfin une partie du port est occupée par des militaires, et à des endroits quand j'étais enfant, et pourtant c'était sous le colonialisme où j'allais libre, jouer, et que maintenant je n'ai pas accès, donc voilà, tout ça, ça m'a mis en pétard, quoi.
Alors, manifestement, votre livre est un livre de colère. Il y a une nostalgie aussi de l'Algérie que vous avez connue enfant, parce que vous nous faites partager ces jeux, ces mélanges aussi entre les...
Oui, malgré qu'on était pauvres, misérables, mais on était dans une belle ville, comme raconte Souchon, marcher dans une belle ville, c'est déjà ça. On était misérables, mais on avait quand même une ville qui était belle. Il y avait des plages, on allait dans les plages. Voilà, et puis peu à peu, ça, c'est une dégradation, mais l'indépendance, c'était presque... On a vécu ça comme une deuxième guerre. L'indépendance a ruiné ma ville, voilà.
En même temps, vous montrez bien que pendant les 10 ans, vos 10 premières années, les 10 premières années de votre vie, donc sous le colonialisme, c'est aussi l'oppression. Vous le faites sentir.
Ah oui, il y avait l'oppression. On vivait misérablement. On n'avait rien. On vivait comme des... presque comme des rats, quoi. Mmh. On vivait... on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Et pourtant, on était en ville, hein. On était pauvres, on était indigènes, indigents. Mais malgré ça, j'étais heureux. J'étais comme un enfant, quoi.
On a le sentiment qu'on
peut être heureux, un enfant, quoi. Ouais.
On a le sentiment que l'indépendance, vous l'avez vécu un peu comme une libération, mais confisquée.
Oui,
totalement confisquée.
Autant on attendait que ça. On vivait dans avec cette indépendance qui allait débarquer, qui allait nous sauver, qui allait nous libérer, qu'on allait vivre enfin libre. Et puis finalement, non. Finalement, on a eu une dictature militaire, on avait peur de parler, on a peur de se promener, l'insécurité s'est installée, et voilà.
D'accord. Alors, vous nous parlez de l'école dans votre livre, votre trajectoire scolaire, mais la vôtre et aussi celle de votre père. Apparemment, elles sont assez contrastées.
Oui.
Parce que votre père réussit à l'école sous le colonialisme. Vous, par contre, vous êtes en échec, entre guillemets, pendant la période coloniale et vous explosez pendant l'indépendance.
Moi, quand j'allais à l'école, j'avais l'impression d'aller dans un pays étranger. Parce que chez moi, on parle arabe, on a un autre univers. Et quand j'allais à l'école, c'était un autre univers. Donc, le français, je ne savais pas parler. Donc, j'étais à l'écart. La majorité, c'était des Français, des colons, quoi, des fils de colons et tout. Et donc, j'étais... Et puis, je savais qu'on était en guerre contre la France. Donc, c'est comme si il y avait... Je me demandais ce que je faisais là, dans cette école. Et c'est vrai que j'étais retiré, je participais pas, j'avais peur de cette école. C'était une école qui me faisait peur.
Alors vous parlez de la mémoire en Algérie telle qu'elle est codifiée par le pouvoir en place, et vous dites que c'est une réduction de la mémoire à une mémoire qui serait strictement arabo-musulmane, qui nie en fait tout d'autres tas d'autres apports, notamment par la population d'origine,
oui, parce
les
que
berbères.
Parce que je ne suis pas contre l'arabe ou contre la... C'est ma langue, hein, l'arabe. Mais j'aurais voulu qu'on parte de l'algérien. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont algériens, qui ne sont pas utilisés en Égypte ou en Syrie. Ou les Algériens, ils ont un arabe particulier. Mais c'est de l'arabe. Il y a des mots qui ont des contextes culturels, qui sont bons. Il y a des proverbes, il y a toute une culture. Et toute cette culture, elle a été balayée au profit d'une langue un peu... C'est comme si en France, on parle français dans la rue et qu'à la télé, dans les journaux, on vous parle latin. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça.
Abdelhaye, ça dit que je passe à... Oui. À vous, pour vous demander si vous réagissez sur ces propos.
C'est-à-dire, je dois réagir. Il est vrai que la situation que décrit Kaddour est presque la même au Maroc, mais avec des paramètres complètement différents. L'arabe que nous parlons dans la rue n'est pas celui qu'on nous écoutera ni à la radio ni à la télé. Donc nous avons l'impression d'avoir été doublement colonisés, autant par le français que par un certain arabe. Quoi qu'il en soit, il est de notre devoir, nous, intellectuels, personnes qui ont, si je puis dire, une certaine façon de vivre ou une certaine façon de parler, de remettre un petit peu les pendules à l'heure. En disant qu'effectivement, il y a eu des travers, il y a eu des attitudes un petit peu qui ont marginalisé toute une culture, toute une littérature, qu'elle soit kabyle ou amazigh, ils n'ont pas été marginalisés dans un sens politique, ils ont été marginalisés dans un sens fonctionnel. Et c'est là où il y a le problème, il se pose. Pourrions-nous remettre à l'honneur ce socle, ce terroir linguistique et langagier pour le remettre en termes fonctionnels, pour qu'il acquiert une présence politique, pour être ce qu'il a toujours été, nos fondamentaux. C'est-à-dire que préalable, croyez-moi, quand je suis né génétiquement arabe, mais qui me dit que je suis à 100% arabe, sinon quelque part berbère, quelque part sahraoui, quelque part africain, foncièrement africain, et pourquoi pas foncièrement, je dois reconnaître ma judaïté, ma chrétienté à travers l'histoire, je suis un sujet historique. Je ne suis pas uniquement une nationalité posée là, à travers un passeport.
Voilà. Oui.
Kaddourian, oui.
Oui, je pense la même chose. Hein. On a, après tout, on est un produit de l'histoire, et donc moi je revendique toutes les cultures qu'on a eues en Algérie, aussi bien le christianisme, le judaïsme. Moi, je veux pas être un être. Comment dirais-je. me couper d'une partie de ma personnalité. Voilà. Je revendique tout. Je revendique Albert Camus. Mm-hmm. Je revendique Saint-Augustin qui est berbère et qui est le patron de la chrétienté. Ah, oui. Il est né en Algérie de père. Sa mère qui était berbère.
Voilà, exactement. Si tu me le permets.
Non, mais sans père.
Si tu me le permets, par ces temps un petit peu de barbarie à visage humain. Quelque part, comme disait Werner Henri Lévy à propos d'un autre pays, il est vrai que les frontières nous ont cassés. Les frontières nous ont enlevé un petit peu nos repères. Entre moi et toi, Algérien Marocain, nous n'avons pas de frontières, sauf celles qui a été ou qui ont été installées depuis les Romains, depuis. Maintenant, qu'en est-il de l'avenir ? L'avenir, non pas le mien ou le tien. Qu'en est-il de l'avenir de nos enfants ? C'est-à-dire comment tendre la main à l'autre, comment devenir méditerranéen, comment reconnaître notre africanité, comment reconnaître notre appartenance à la Mare Nostrum qui fasse que nous sommes des citoyens du monde, mais un monde auquel nous contribuons et à la construction duquel nous contribuons avec nos valeurs, parce qu'on en a. Et je ne pense pas que l'Europe aurait été autre chose qu'elle n'est actuellement sans nous. Et nous, on ne serait pas autre chose sans elle. Alors donc, il va falloir peut-être repenser, remodeler un petit peu notre attitude langagière et discursive par rapport à l'autre. Mais cet autre qui n'est que moi-même par rapport à toi. Mais si la main dans la main avec l'autre, nous puissions parvenir à redire, à redéfinir, à réécrire le rapport civilisationnel.
On va écouter dans un moment le groupe Nassel Riwan. Juste auparavant, Kadour Riad. Dans votre livre, vous racontez votre arrivée en France. Vous êtes réfugié territorial. C'est le statut que
oui, non, mais ça, c'est le livre. Hein. Mais moi, je ne suis pas réfugié territorial.
Ouais. D'accord.
C'est pas, donc, c'est pas.
C'est bien un roman.
Oui, c'est romancé. C'est autobiographique. C'est inspiré, mais c'est très romancé, quoi.
D'accord. Donc, vous n'avez pas suivi la trajectoire du personnage qui est dans les livres puis dans l'indépendance.
Non, non.
N'êtes pas arrivé à
non,
Toulon.
Mais je me suis exilé.
Le dialogue,
je suis un exilé volontaire.
D'accord. Ouais. Alors, est-ce que votre livre est ou sera publié en Algérie? Est-ce que c'est concevable que ce livre, avec ce titre, Pulin de dépendance...
Avec ce titre, non, parce que déjà, moi, je ne veux pas qu'il soit édité avec ce titre, parce que les Algériens sont un peu, disons...
Hésitants.
Oui, ils n'aiment pas trop... Ce mot-là, putain, ça pose problème. Mais j'ai trouvé un titre plus grave.
Vous l'avez déjà trouvé ?
Mais qui passe. D'accord. Mais qui passe. Éventuellement, si un éditeur algérien est intéressé, quoi. Ouais. Je peux le dire, le titre en exclusivité dans votre radio PFM libre et sans pub.
Ah bah il faut le dire, oui.
Et il va vous traduire ça, c'est... Voilà. Heureuse, l'indépendance de point heureuse, Mosseba.
Aïe, aïe, aïe. Bah, l'indépendance de point heureuse, catastrophe.
Ouais, cataclysme. Un heureux cataclysme. Une heureuse catastrophe.
Voilà.
D'accord.
Mais Mosseba, ça fait, en algérien, ça fait un peu fort, parce que c'est un terme générique qui veut dire.
Ça nous est tombé du ciel comme ça ?
Voilà, sur la tête.
Alors, où est passé le colon ? Où est passé le colonisé ?
Alors on va écouter le groupe Nassel Riwan, donc auquel Abdelaïd Saïd, vous avez consacré donc ce livre et le morceau, je crois que c'est Yassa et Abdelaïd Saïd, traduira les textes ensuite.
Merci.
ويا صاح راني وسط الحمله aime. Oui, là.
C'était le groupe Nassel Riwan, le morceau s'appelle Yassa, et Abdelahi Sadik va nous traduire le texte de cette chanson.
Compagnon, compagnon, je suis au creux de la déferlante. J'ai quitté les miens, mais je ne suis point serein. Si la grisaille se dissipe et vient l'éclaircie, si notre étendard flotte à nouveau, ce jour-là, nous draperons nos demeures de blanc. Oh vous! Oh, vous, prenez-moi en pitié, ma patience comme ce monde n'est pas éternelle. Ils ont versé tant de larmes, mon état s'est dégradé depuis tant d'années. Les ennemis m'entourent de tous côtés. Les uns me raillent, d'autres se jouent de moi, me lamentant seul au creux de la vague, ni main tendue, ni aide en vue. Là de la solitude, ce qui m'est arrivé, seule la paix peut me guérir. De supplique en supplique afin que mon état change. Ô vous, prenez-moi en pitié. Regardez où nous en sommes, au point où l'œil risque de parler. Je ne peux plus rien dire, moi. En ce monde, rare est la clémence, et je ne peux rien faire. Je ne peux plus endurer ce monde sans paix. Je ne peux plus endurer ce monde sans paix. Peu nombreux sommes-nous. Faut-il nous disperser encore plus? Tel le partage du maigre troupeau, nous y avons tous perdu. Mais, pardonnez au muet s'il a osé dire mot. Quand le torrent est en crue, rien ne l'arrête. Si le secret est découvert, ne le cache point. Le soleil des vivants ne réchauffera guère les cadavres, et le croissement du courbeau n'amènera point de pluie. Sachez toutefois que sans union, nous n'y arriverons jamais.
Voilà, c'était donc la traduction de la chanson Yassa de Nassel Riwan. Alors Abdelahi Sadik, donc, vous publiez ce livre consacré à ce groupe, Nassel Riwan, et le sous-titre c'est « Protest Song au Maroc ». Alors ce groupe est né dans les années 70. En quoi ce groupe est fondateur, si, à vous lire, c'est ce qu'on a comme sentiment, et fondateur de la musique, de la chanson protestataire au Maroc.
En réalité, il est le fondateur d'un mouvement de rupture. Si auparavant, c'est-à-dire avant, dans les années 60, qu'est-ce que la jeunesse marocaine écoutait ? Elle écoutait les mélopées égyptiennes, qui ne sont pas sans intérêt, mais nous étions en quelque sorte un petit peu sous cette influence radiophonique de grandes divas et de grands ténors égyptiens, appuyés par des orchestres symphoniques. On retrouve même dans certaines chansons égyptiennes de Abdelwahab, par exemple, des thèmes musicaux piqués, permettez-moi l'expression, piqués à Verdi. Certains thèmes du Nabucco sont piqués par ce type de chansons-là. Et puis nous, on était quand même dans un mouvement, on se disait, voilà, on écoute cette chanson-là, orientale, on écoute une chanson de variété marocaine, mais il y avait également l'influence de ce qui venait d'Angleterre, des États-Unis, d'Europe. Et on se posait la question, qu'allons-nous faire, puisque nous avions une situation un petit peu de point de convergence entre l'Orient, l'Occident, l'Afrique et l'Europe, que pourrions-nous proposer, sinon faire revivre le patrimoine musical marocain, dont l'essence même est berbère, sahraoui, arabe, et sans oublier l'apport judéo-chrétien et l'apport oriental. Il y a eu une synthèse, et Nasr Riwan, en s'inscrivant dans cette dialectique de refaire revivre le terroir musical marocain, a repris les thèmes musicaux, nos racines africaines, négro-africaines, qui existent à travers la trance, à travers les Gnawa, et en plaquant dessus des paroles, soit du terroir poétique marocain, soit en recréant. Mais que dire ? Reproduire uniquement le schéma poétique confrérique, où on implore Dieu, reproduire le schéma musical confrérique, où c'est une thématique trans, c'est tout ? Non. Il fallait écrire une chanson qui traduise les préoccupations du peuple marocain, mais pas uniquement du peuple marocain à un moment donné, d'un point de vue conjoncturel. Non, c'est d'inscrire les souffrances d'un peuple par rapport à un pouvoir, par rapport à une situation donnée, mais de l'inscrire dans l'universalité. Ce que le Maroc vivait dans les années 70 était la même chose qu'en Algérie, en Tunisie, en Égypte, ailleurs. Et ça s'articulait, c'est cette articulation-là qui a amené à ce que nous nous inscrivions, grâce à Nasr Riwan, dans un mouvement protestataire au niveau de la chanson. Certes, la protestation, elle est poétique, elle est également musicale, car le Riwan s'appuie sur un minimalisme instrumental. Il reprend quatre instruments qui sont dans la tradition négro-africaine, dans la tradition arabe et dans la tradition amazigh, et qui est basée beaucoup plus sur une rythmicité, la mélodie, le seul instrument un petit peu intrus, dans une certaine manière, c'est le banjo. Mais le banjo avec un déplacement des frettes pour avoir le quart de ton et pour parvenir à reconstruire un schéma musical acceptable par rapport à l'oreille marocaine. Bien sûr que la jeunesse marocaine ne pouvait qu'adhérer. Et même au départ, les médias d'État ont adhéré et ils les ont passés. Certes, il y a eu une sorte de dénigrement de la part de l'intelligentsia. Pourquoi ? Parce que Nasr Riwan ne s'inscrivait pas dans un schéma partisan. On ne pouvait pas dire qu'il était d'extrême gauche ou de gauche. Il était la voix de tous, le regard de tous. En quelque sorte, c'est comme s'il disait, entre le politique et le politiquement correct, entre le politique qui pourrait tendre un petit peu vers une certaine violence et le politiquement correct qui admet ou accepte un petit peu des compromissions, il y a une voix. Celle d'éveiller chez le citoyen marocain, et je le dis parfaitement bien, le citoyen et non pas le sujet, le citoyen marocain, d'éveiller chez lui la possibilité de dire non, mais de dire non d'une manière, comment dire, courtoise, non pas brutale ou casseuse ou tout ce qu'on veut. Est-ce que ça a réussi ou pas ? Mais j'ai l'impression, au regard de ce qui s'est passé cette année, au regard de tout le mouvement du printemps arabe, à travers tous les pays, je crois que le Maroc est l'un des pays qui a réussi un petit peu à faire un certain équilibre entre l'exigence de la jeunesse et l'exigence politique dans son positionnement par rapport à une globalisation et à une mondialisation. Nous ne pouvons pas tout casser pour tout reconstruire, et combien de temps ça nous aura demandé. La preuve, vous l'avez devant vous depuis pas mal de temps, et depuis une année, tellement de sang, tellement de morts, pour arriver à quoi ? Est-ce que peut-être nous avons réussi ? Mais nous réussirons peut-être, mais différemment.
Alors Nassel Riwan, vous, dans vos propos, on sent une sorte de paradoxe, parce que vous parlez de rupture, et que le groupe apporte introduit une rupture dans la tradition musicale marocaine, et en même temps, vous soulignez le fait qu'il renoue avec les racines multiples de la société marocaine.
Bien sûr, bien sûr.
Et vous parlez aussi de rupture par rapport à la forme musicale et les rapports au public. Ce que vous soulignez, c'est la chanson classique, par exemple égyptienne, avec le ténor ou la diva, les chœurs, l'orchestre symphonique. Pour Nassel Riwan, c'est un groupe, et vous dites qu'il renoue avec la chanson dialogue.
Oui.
Où le public peut intervenir.
Exactement. Exactement. La chanson dialogue, elle est basée sur la tradition et la notion de halqa. Halqa, comme tout le monde sait, je suppose que lorsque nous parlons, non, tout le monde ne sait pas, mais lorsqu'on parle du Maroc ou lorsqu'on parle de Marrakech, il y a l'emblématique plage Jemaa el-Fna où il y a les halqas, ces cercles d'auditeurs ou de spectateurs qui entourent un troubadour, qui entourent un artiste, chanteur ou jongleur. Et la chanson dialogue ou le rapport dialogique entre les deux, c'est que l'acteur qui est au centre, il est à la fois émetteur et réceptacle. Et il est interactif, c'est un spectacle interactif où le spectateur intervient. Alors, pour ce qui est de Nassel Riwan, en réhabilitant ou en remettant à l'honneur la chanson Dialogue, c'est que lorsqu'il est sur scène, il est en train d'exécuter ou de faire une performance. Cette performance n'est pas uniquement à lui à 100%. Sa densité et sa tension dépendent de ce que lui dégage le public comme onde. Et il y a un regard, mais ça on le trouve par exemple sur les scènes du Printemps de Bourges ou pour certains artistes français par exemple, où il y a cette tension qui se fabrique, où la scène n'est plus la scène exclusive pour l'artiste, mais c'est une scène où se traduit une osmose entre l'artiste, le public et la musique en elle-même. Et Nassel Riwan a recréé ça. Il m'est arrivé, pas loin d'Arras, c'est-à-dire à Lille, d'assister en 1984 à un concert de Nassel Riwan où un spectateur est monté sur scène, il a enlevé le tambourin à Omar Sid, le patron, si je puis dire, de la troupe, et il a commencé à jouer, mais sans aucune fausse note. Aucune. Introduisant, c'est-à-dire que Nassel Riwan, c'est la voix de tous. Ce que je ne peux pas dire, ou ce qu'un citoyen marocain ne peut pas dire d'une certaine manière, il se trouve porté sur la scène par la voix de 4 jeunes qui ont osé dire grâce à leur performance vocale et leur performance musicale. Et c'est cette osmose-là qui est très intéressante. Bon, est-ce que ça ne nous rappelle pas un petit peu ce qui se passait sur les places publiques devant les églises au Moyen-Âge ? Est-ce que ça ne nous rappelle pas certains spectacles de rue ? On ne déroge pas à la règle méditerranéenne, on ne déroge pas à cette règle où la souffrance de l'un se trouve à un moment ou à un autre mise en musique, mise en spectacle par un autre qui souffre peut-être autant, et il se produit une sorte de radiation qui amène à ce que tout le monde dise ce qu'il ressent, mais in fine, est-ce que Nassel Riwan n'a pas été une simple soupape ?
Grande question. Alors Nassel Riwan, vous nous avez bien souligné sa résonance avec le peuple marocain. Kadour Riyad, est-ce que Nassel Riwan a eu un écho, par exemple, en Algérie ?
Ah oui, parce que, c'était nous. Moi, je sais pas, je devais avoir dans les 20 ans à l'époque, on écoutait tout le temps ça. On écoutait ça comme on écoutait les Beatles, les Rolling Stones. Ça nous a réconciliés avec notre culture, parce que notre culture était... On était un peu complexés par rapport à cette arabisation, cette musique qui venait de l'Égypte, qui venaient de l'Égypte. Et donc notre culture, elle a été un peu marginalisée. On avait presque honte de notre propre culture. Et Nassim Rewali, ils nous ont réconciliés avec notre propre culture, tout en utilisant un rythme jeune, très, même s'ils utilisaient des instruments traditionnels, mais c'était un rythme très jeune, très, très engageant, très dansant, très...
Et c'est quand même très curieux, parce que quand on écoute Nacelle Riwan, bon, vous dites on écoutait Nacelle Riwan comme les Beatles,
oui, oui.
Nous, à l'écoute, on entend plutôt un groupe traditionnel qui nous paraît traditionnel. Par exemple, il n'y a pas d'électrification des instruments.
Non,
aucune.
Non. C'est tout dans le jeu, la musique,
l'intensité de la voix.
L'intensité
le rapport au public est proche du rapport au public de la musique rock, par exemple.
Oui. Oui.
C'est ça, peut-être.
Oui.
On peut arriver parfois sur scène à casser des instruments.
C'est arrivé avec Nacelle Riwan.
C'est-à-dire que parfois, ça m'a rappelé certaines scènes, ça m'a rappelé les concerts des Who, parfois, hein, où vraiment on balançait les instruments, les spectateurs montaient sur scène. Parce que là, le morceau qu'on a passé, il est vrai qu'il est quand même en moderato, hein, mais il y a des morceaux qui s'achève par des rythmes hyper, hyper, hyper saccadés, où il y a la transe fondamentale, à tel point qu'il y a des gens qui tombent par terre en transe, après une transe. Je ne sais pas, parce que ça rappelle ce qu'on appelle les lilas des Gnawa, ou qui sont fondés sur un rythme mystique, soufi, qui amène à rentrer en communion avec les esprits. Alors, les esprits magnifiques ou bénéfiques, bon, peu importe, mais au moins ça nous transporte. Et c'est ça. Parce que là, ils rappellent nos origines négro-africaines, qu'on le veuille ou non. Ils sont là. Alors, dans ce cas-là, sommes-nous encore des Algériens ou des Marocains, sinon des Africains?
Ah oui, on est d'abord des Africains.
Voilà. On écoute Nacelle Riwan.
Chamelier, reprends tes bêtes. Sache que nous sommes de bonne descendance et nous n'avons connu que l'abondance. Sache que nous sommes de haute lignée et nous n'avons connu que dignité. Nos yeux sont nourris de bonté, ne viens donc pas les souiller. Reprends tes chameaux et va. Nos cœurs ont pour devise la fraternité. Empierre ton cœur à toi, nous n'en voulons pas. Chamelier, chamelier, la soie ne nous va plus après l'avoir tant portée. L'équité est notre voie. Nos yeux sont nourris de bien, ne viens donc pas les souiller. Reprends tes chameaux et va. Nous avons jeté la soie après l'avoir portée. L'éphémère beauté ne nous séduit plus. L'inconstant amour ne nous attire plus. Seule l'équité nous importe. Et tu reviens encore nous séduire avec tes chameaux. Lève-toi, lève-toi, tente de changer ton état. Les attaques des ennemis redoublent de violence. Nous leur avons fait confiance, ils se révèlent reptiles ou venins mortels. J'ai souvenir de notre demeure toujours éclairée. Maintenant notre blé et notre orge ne sont que sons. Blessés au cœur, À quand la fin des sombres nuits de tourmente? Ils nous ont dupés, pourtant nous sommes loyaux. Ils nous ont humiliés et leur médisance ne présage rien de bon. À quand l'éclaircie? À quand l'éclaircie et la vérité du serment? Le traître sera marqué au fer. Il sera risé de tous.
يا جمال رد جمالك علينا رحنا ولاد ناس وفي الخير تربينا.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio PFM sur le 99.9 en direct du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Ce 1er mai à Arras, nos invités Abdelhaïs Sadi qui a écrit sur Nassel Riwan, un groupe marocain, et Kardour Riyad qui a écrit le livre qui s'intitule Putain d'indépendance. Alors pour terminer cette, ce débat, cette émission, je voudrais que vous donniez un peu votre sentiment, l'analyse que vous portez sur ce qu'on a appelé les printemps arabes, ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, et puis quels échos et que se passe-t-il au Maroc et en Algérie. Peut-être Kardour Riyad pour commencer. Bon, je sais que ces derniers jours, il y a eu à nouveau des jeunes qui se sont immolés, pour les mêmes raisons d'ailleurs que ce que l'on avait pu voir en Tunisie.
En Algérie, je ne sais pas, parce que je suis un peu coupé maintenant, j'y vais rarement. Je sais qu'il y a des émeutes au quotidien, partout, tous les jours, il y a des émeutes, des... Mais par contre, ce que je voulais dire par rapport au printemps arabe, c'est que moi, ça m'a réveillé. Ça m'a redonné une autre jeunesse. J'étais comme un fou. J'étais fou de joie. On était un peu désespérés. On ne s'attendait plus. Du jour au lendemain, Ben Ali qui est dégommé après la révolution en Égypte, j'ai retrouvé une autre jeunesse et je me sens bien, pourvu que ça dure. J'espère que l'Algérie ne va pas tarder à y passer. J'y tiens.
Vous le sentez, voilà.
C'est-à-dire l'Algérie,
c'est plus compliqué.
L'Algérie, oui, c'est un peu compliqué parce qu'on a déjà eu les émeutes du 5 octobre et on en a pas mal souffert. Et donc, les gens, ils ont pas envie de replonger dans une autre violence. J'espère que ça va se faire pacifiquement. C'est l'idéal, mais ce pouvoir-là, ça m'étonnerait qu'ils fassent quoi que ce soit en ce sens-là, quoi.
Alors, dans votre livre, vous parlez de l'indépendance, putain d'indépendance, bon, révolution un peu confisquée. Est-ce que pour les printemps arabes, là, est-ce que vous avez peur de cette confiscation possible, par exemple, par... Bon, c'est ce qu'on dit, ce qu'on entend, l'intégrisme musulman.
Non, moi j'ai pas peur. Hein. Pourvu qu'on redonne le pouvoir aux civils. Si les gens ils ont envie d'être représentés par des islamistes, ben c'est leur problème. Mais que ce soit dans la démocratie, quoi. En Turquie, il y a bien un gouvernement islamiste. Et ben en Turquie, il y a des bars en face des mosquées, il y a des il y a aucun problème, quoi. Les gens vivent bien, c'est un pays qui fonctionne bien, l'économie est dynamique. Non, ça ne me fait pas peur.
Abdelhaïs Sadik, votre perception des printemps arabes, Tunisie, Égypte, Libye et Maroc?
Honnêtement, des printemps qui durent, je n'en ai jamais vu. Voilà au moins un printemps qui dure. Mais il dure du point de vue du discours, des affres, des blessures, des attentats, des souffrances des gens. On sait qu'à travers l'histoire, toutes les révolutions qui ont eu lieu, que ce soit en Russie, Cuba, dans d'autres pays, il y avait un prix à payer. Mais c'était un prix à payer au nom d'une idéologie. Je me pose la question. Les printemps arabes sont là, comme un mouvement spontané, comme un mouvement populaire, non structuré. Il est en train de se structurer. Veuille que, en se structurant, il donne lieu à une révolution en bonne et due forme. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution en bonne et due forme? Qui se construit historiquement sur des bases solides, sur des bases respectueuses des fondamentaux que nous avons dans nos sociétés. Nous n'avons pas le droit d'emprunter des schémas démocratiques pour les appliquer à des sociétés non démocratiques, foncièrement parlant, fondées sur la féodalité sans avoir payé le prix. Reprenons tout simplement les leçons que la France nous a données, d'une certaine manière, pas à nous, mais au monde entier. Sa République, elle ne l'a pas construite du jour au lendemain. C'est sûr, c'est en coupant des têtes, c'est en faisant tomber des gens et des gens. Il n'en demeure pas moins que si nous voulons parvenir à rendre notre printemps un véritable printemps, non seulement pour le Maroc ou pour l'Algérie ou pour la Tunisie, mais un printemps méditerranéen, conciliateur, pacifique et pacifiste, tout en ayant la possibilité de dialoguer avec les autres et permettre aux autres de dialoguer avec notre langue et notre langage, nous devons absolument mettre en place une sorte de structure, qu'elle soit langagière ou autre, pour au moins parvenir. On n'est pas isolé. On ne vit pas dans un monde comme dans le temps. Non. Nous appartenons à une globalité. Cette globalité nous impose un certain nombre de choses. Ce dont j'ai peur, ce n'est pas véritablement, pas personnellement. Le printemps arabe, c'est un printemps arabe qui n'a pas uniquement réveillé les peuples arabes. Regardez ce qui se passe chez les indignés en Espagne, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France. Ce que je souhaite personnellement, c'est que nous ne soyons pas des frustrés et qu'on ne nous enlève pas notre victoire sur l'ignorance, notre victoire sur l'obscurantisme, mais pas non plus rendre la laïcité comme étant la seule monnaie d'échange pour pouvoir être moderne. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné les modernités que nous vivons actuellement? Sinon des stigmates, sinon des blessures. Non, 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 non. Le printemps arabe fera son chemin, mais heureusement qu'il a trouvé écho ailleurs. Et dans cet ailleurs, je suis très content des places de Barcelone, de Madrid et même de Paris très bientôt.
Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous recevions Abdelhaï Sadik et Kadour Riyad. Je vous rappelle les livres qu'ils ont écrits. Donc Abdelhaï Sadik est un livre, le livre est consacré au groupe Nassel Riwan, sous-titré Protestants au Maroc. Et puis Kadour Riyad, donc son livre s'intitule Putain d'indépendance. Et le titre en Algérie, ça sera, rappelez-nous.
Heureuse indépendance, quel mot c'est bas.
Heureuse catastrophe.
Heureux cataclysme.
Voilà, merci.
Merci à vous.
PFM toujours en direct du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, ce 1er mai à Arras.
Okay.